Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités de la Planète Marché. Trois experts nous accompagnent ce soir sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Léa Dunant-Châtelet. Bonsoir Léa Dunant-Châtelet.
Bonsoir.
Vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA. On a le plaisir d'accueillir également Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre Baradez.
Bonsoir.
Vous êtes chef analyste chez IG. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir également Benoît Vesco. Bonsoir Benoît Vesco.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes président de Delubac Asset Management. On va peut-être commencer avec vous, Benoît Vesco, avec une question assez large pour essayer de comprendre un petit peu votre vision des marchés ces dernières semaines. Ça fait un peu plus de deux mois que Donald Trump a annoncé pour la première fois ses tarifs, hein, puisqu'après on a vu qu'il y a eu une succession de déclarations et on a vu des réactions sur les marchés actions qui sont allés dans un certain sens, un peu plus de stress sur l'obligataire. Comment est-ce que vous vivez cette séquence depuis deux mois? Qu'est-ce qui vous alerte aujourd'hui sur le marché, alors qu'on a l'impression justement que les marchés actions ne semblent plus alertés par grand-chose à l'heure actuelle?
C'est vrai, alors c'est plutôt une bonne nouvelle en tant qu'investisseur. On a eu cette phase d'abord d'inquiétude et de stress, hein, mais c'était bien la stratégie de Trump, hein, c'est bien comme ça qu'il conçoit ces négociations. Et puis ensuite, cette phase de soulagement ou de baisse d'inquiétude, puisqu'on voyait qu'entre ce qu'on annonçait hein, et le paroxysme, c'était les négociations avec la Chine, qui aboutissaient à un blocage total des relations commerciales, hein, ce qui devenait effectivement un scénario très noir. On voit bien qu'il y a un retour à la raison, ça soulage les marchés actions en particulier, ça les rassure, on revient dans quelque chose de supportable. Hein. Alors on parle plutôt maintenant de 10-15% de run en moyenne, attention aux cas particuliers, mais c'est plutôt ça. Donc c'est supportable pour les marchés actions. On va passer à l'étape suivante sur les marchés actions. Donc on a géré ce qu'on appelle plutôt pour les marchés actions US, etc. Moi je le verrais plutôt comme un espèce de plateau, une période un peu de stabilisation, d'observation. Quel est l'impact sur l'économie réelle? Vous l'avez dit en introduction, on commence à regarder, on voit des indices quand même qui montrent un effritement. Hein, donc il va falloir le regarder sérieusement. Mais...
Parce que c'est là où c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a les marchés normalement peuvent jouer aussi comme anticipateur quelque part de ce qu'on pourrait voir sur l'économie demain. Et on a d'un côté des experts qui nous disent on ne voit pas encore dans l'économie réelle l'impact des prises de parole de Donald Trump et des décisions de Donald Trump sur les derniers mois. Et en même temps, on a des marchés qui semblent accepter finalement toutes les déclarations comme si on allait vers une dynamique positive ou en tout cas vers une dynamique pas plus négative qu'aujourd'hui.
Ce qu'on peut dire, quand on regarde vraiment les marchés actions, et je crois qu'il faut bien segmenter sur les différents marchés, mais les marchés actions sont en phase d'attente, puisque le principe du gouvernement Trump, c'est d'être imprévisible. Donc on voit bien qu'on revient sur quelque chose de supportable, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on n'est pas en plus en train de repartir à la hausse de manière vigoureuse sur les marchés américains, parce qu'on voit bien que quand même, en regardant les prévisions du FMI, les récentes prévisions de l'OCDE vont toutes dans le même sens. C'est quand même une révision à la baisse de la croissance mondiale. C'est une révision à la baisse de la croissance US qui est plutôt le grand perdant de ce scénario-là. Donc on est bien quand même dans cette guerre commerciale, dans un jeu perdant-perdant. Il ne faut pas l'oublier. Alors c'est pas une récession aux États-Unis, c'est un ralentissement. Ce n'est pas du tout la même chose.
D'accord.
Donc pas de panique, plus de panique sur les marchés US, actions, mais une phase d'attentisme et d'observation pour voir si ce scénario de quelque chose de supportable se confirme bien. Maintenant, vous l'avez dit, il y a d'autres alertes et d'autres signaux. Les marchés obligataires, la devise américaine, qui eux sont plus vigilants et ont un scénario beaucoup plus prudent et voire même inquiet.
Hein, donc ça, c'est, oui, bien c'est sûr. Ça qu'il faut regarder. Notamment sur la dette américaine, sur les marchés obligataires américains, où là, bon, bah, le signal n'est pas exactement le même. Il y a une vraie inquiétude des investisseurs.
Il y a clairement un sujet. Hein, il est simple. Hein, on est dans un scénario, quand on le voit économiquement, baisse de la croissance et hausse des perspectives inflationnistes, c'est pas le bon scénario pour un banquier central. Si ce n'est pas le bon scénario pour un banquier central, qu'est-ce que peut dire le marché obligataire dans ce scénario-là, d'autant plus que le gouvernement Trump va devoir mener la suite de sa politique, qui est une politique de soutien fiscaux, de cadeaux
bien
fiscaux.
Bien sûr, cette fameuse Big Beautiful Bill, effectivement, qui étend les crédits d'impôt de son premier mandat, enfin qui voudrait en tout cas étendre, qui est en discussion au Sénat à l'heure actuelle.
Exactement, et là, mauvais scénario pour le marché de la dette, encore une fois, hein, c'est-à-dire que on l'a vu récemment, hein, bon, des programmes de cadeaux fiscaux non financés ou pas bien financés, c'est pas du tout ce qui plaît au marché de dette américaine et il y a toujours un impact sur les marchés obligataires mondiaux. Donc là on voit bien qu'il y a encore des sujets d'inquiétude, ils sont plus latents, et le rempart des marchés obligataires, c'est un rempart qui sera extrêmement puissant face au gouvernement. Ça, je pense que là, il y aura quelque chose à surveiller.
Alexandre Baradez, même question. Moi j'aimerais comprendre, il y a deux mois, effectivement, ce fameux Liberation Day, Donald Trump a annoncé un certain nombre de droits de douane. Alors effectivement, bon, le Tribunal de commerce international aux États-Unis l'a retoqué récemment, ce qui laisse entendre que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu et que sa tentative de négociation, si on le voit comme ça, va être un petit peu mise à mal quelque part. Mais les droits de douane, ça concerne en premier lieu, en ligne de front, les entreprises. Aujourd'hui, on voit que ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui s'inquiètent sur la dette américaine, sur le financement du programme fiscal de Donald Trump, plus que sur l'impact dans les résultats des entreprises. C'est quand même un peu contre-intuitif quelque part.
Oui, c'est contre-intuitif, mais pour rebondir ce que disait Benoît là-dessus de ses propos, c'est la question de la perception du marché aujourd'hui. Effectivement, le marché obligataire envoie des signaux. Et effectivement, il y a une alerte sérieuse au mois d'avril. Dollar qui baissait très fort, les obligations US qui baissaient très fort, et le marché action qui a connu une volatilité à 60, qui sont des niveaux
au
Covid ou suprême.
Donc c'est, et qu'on n'a plus aujourd'hui.
Qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais pour autant, le marché obligataire n'est pas dans le même sens que le marché action ces derniers temps. Donc effectivement, il y a quand même un sujet dette, soutenabilité de la dette, plus la dégradation de Moody's, donc, qui est venue mettre le doigt là-dessus. Un dollar qui n'a pas repris beaucoup de couleurs non plus, vous aurez des
longs
par rapport au dollar, même le dollar index globalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a l'impression que le cavalier seul se fait sur les actions. Même les commodities n'ont pas tant bougé que ça. Le pétrole reste toujours vers les $60 et quelques. Il n'y a pas de rebond du cuivre, de proxy sur la Chine plus haussier que ça. Donc l'impression, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de partie de bras de fer qui joue dans le marché entre certains acteurs qui étaient présents. Peut-être avec des visions plus moyen terme, peut-être du retail qui est rentré en disant bon, ben mon 20% je rentre, très probablement ça, peut-être une partie de fonds aussi qui a peut-être du cash et qui est rentré, mais le sentiment que beaucoup ne sont pas rentrés là-dedans, et ça donne une espèce de rallye, les rallyes un peu détestés, je peux traduire ça en anglais, mais c'est les rallyes où si on n'est pas dedans, on n'aime pas voir le marché partir sans nous, parce qu'on a...
Ouais.
Moi, je fais partie de ces gens-là qui considèrent qu'on allait au-delà de la capacité de reprise normale et saine dans ces conditions-là. Et parce qu'il y a le gros point d'interrogation, je crois que tout le monde l'a vu, c'est que vous avez des soft data, donc des données, des enquêtes, qui sont plutôt même très nettement baissières depuis plusieurs mois, des données hard qui se maintiennent à peu près, et la question, c'est qui converge vers qui ? Est-ce que, effectivement, c'est la macro qui commence à ralentir un peu ? Et cet après-midi, on a l'impression d'avoir eu de nouvelles indications par rapport à ça. Effectivement,
ouais.
ADP, alors, c'est sûr que le juge de paix, c'est le rapport sur l'emploi, mais ADP, ça fait quand même deux mois d'affilée que le chiffre ADP n'est pas terrible. ADP, c'est pas fait au doigt mouillé. C'est une grosse entreprise américaine qui gère la partie d'externalisation de paix ou autre. Donc, il y a une bonne vue quand même sur le marché de l'emploi et qui a ses chiffres. Et si deux mois d'affilée, vous avez des chiffres un peu moins bons, il faut y prêter attention. Les inscriptions au chômage hebdomadaires sont un peu remontées la semaine dernière. Et puis
ouais,
là, vous l'avez dit, l'ISM, c'est quand même un sacré décalage par rapport au consensus.
Mmh.
L'ISM service, c'est quand même le nerf de la guerre, les services. Trois quarts de l'économie américaine, c'est des services.
Et alors, et je disais en plus que sur l'ISM Service, il a été en zone de contraction quatre fois depuis la reprise post-Covid.
Oui, on y a été effectivement à chaque fois, c'est des touchettes et on repartait. Mais sauf que la moyenne quand même des publications sur l'ISM, on était encore à 55-56 il y a quelques mois, on voit que c'est quand même en train d'atterrir.
Alors, ouais.
Effectivement, le soft landing, c'est peut-être ça, et c'est même probablement ça. Mais la question, c'est du coup la valorisation, parce que oui, les marchés ne sont pas l'économie directement au jour le jour, mais quand même, on a des indicateurs d'enquête qui montrent une inquiétude qui est là, chez les consommateurs, peut-être un peu exagérée, mais qui est quand même présente. Des entreprises nous envoient aussi des signaux, secteur manufacturier l'autre jour, maintenant secteur des services, et à chaque fois c'est la même chose, c'est les nouvelles commandes qui se tassent et les composantes de prix qui montent.
Ouais.
Donc, à un moment donné, à quel moment l'investisseur raisonnable se dit est-ce que j'ai pas trop payé avant de voir, et c'est un peu là, moi, que je tique, parce que je trouve qu'à 21 fois et demi les bénéfices anticipés sur l'aspect 500, c'est grosso modo le niveau que vous aviez en fin 2024 dans l'euphorie post-élection, quand on parlait seulement de baisse d'impôts et de dérégulation, et qu'on parlait pas encore trop de guerre commerciale. Donc, on revient dans cet état d'esprit-là, alors qu'il y a bien une guerre commerciale depuis. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu de complaisance actuellement sur les actions.
Donc pas beaucoup de drivers selon vous pour la deuxième partie de l'année sur les marchés actions, si je comprends bien. Alors après, ça peut continuer à progresser quand même, hein, mais en tout cas, vous vous identifiez pas de driver.
Je vais pas faire trop long, mais l'avis de Benoît à ma gauche, c'est le côté effectivement plutôt plateau, c'est-à-dire que même le DAX à 19 fois les bénéfices, c'est il faudrait quand même s'arrêter un peu. Voilà, pour que ce soit sain, qu'on n'ait pas un schéma de bulle qu'on avait finalement un petit peu avant que ça ne se normalise en avril. Donc il faut faire une pause, il faut consolider maintenant.
Léa Dunant-Châtelet, je vais citer Alexandre Baradez, il faut faire une pause.
Je partage totalement, et pour remettre dans le contexte des actions précisément, c'est vrai que le rebond, faut le rappeler, il a été très fort aux États-Unis. Hein. On est entre 5 et 7% selon les indices, 9 pour le Nasdaq sur le mois de mai. Sûr, ouais. C'est plutôt 5-6 en Europe, donc le rebond a été plus fort aux États-Unis. Principalement parce qu'effectivement cet effet d'annonce des barrières douanières s'est évaporé et a finalement laissé de côté l'hypothèse d'une récession aux États-Unis. Donc ça a rassuré les marchés. Et puis il y a eu, on n'en a pas parlé encore, mais toute la saison de résultats, de publication de résultats du premier trimestre. Excellente. 80% des entreprises aux États-Unis ont publié au-dessus finalement des attentes. À peu près 60% en Europe. C'est presque l'un des meilleurs crus qu'on ait eu depuis très longtemps. Et dans des secteurs vraiment très diversifié. Donc ça a rassuré. Par contre, effectivement, la complaisance, moi, je la vois dans d'autres aspects, c'est-à-dire un peu le forward-looking, à la fois des entreprises elles-mêmes qui, au moment de ces publications, nous ont quand même dit il y a quelques éléments de visibilité qu'on n'a plus. Alors, ouais. Ça concerne la devise et les effets devise. On sait très bien, on l'a vécu post période Covid, que quand les mouvements de change sont assez brutaux au niveau mondial, eh bien, ça va avoir des impacts assez forts sur les niveaux de chiffre d'affaires et croissance de chiffre d'affaires. Les entreprises l'ont dit. Il y a évidemment l'impact des barrières, parce qu'en fait, les barrières douanières sont certes beaucoup moins importantes que prévu, mais elles sont quand même plus importantes qu'avant.
Oui. Puis on n'est pas que dans les effets d'annonce, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont là à l'heure actuelle. Ça change, mais il y a quand même des entreprises qui doivent se fournir tous les jours et donc passer des commandes tous les jours.
Tout à fait. Donc du coup, tout ça fait que entre les entreprises qui nous ont dit « j'arrête finalement de donner des prévisions parce que pour l'instant, je n'ai pas cette visibilité-là » et celles qui ont revu à la baisse leur guidance, je dirais que la deuxième partie de l'année va, à mon avis, être un peu plus compliquée. Et quelque part, ce que le marché attend, donc je rejoins cette notion de plateau, le rebond, il était presque technique quelque part, hein, moi je le ressens comme ça, et aujourd'hui, pour mettre à nouveau un coup de boost, il va falloir de très bons résultats premier semestre ou Q2, et je suis pas certaine que ce sera la tendance. Et peut-être un dernier aspect par rapport à ça, faut pas oublier qu'une grosse partie de la hausse se fait sur un nombre de secteurs extrêmement concentrés. Donc là aussi, dans les arbitrages, il va falloir aller regarder peut-être d'autres secteurs qui ont été beaucoup délaissés. C'est vrai qu'à part les financières et la défense dans la partie industrie aujourd'hui, le reste est assez atone, et je pense notamment au secteur de la santé, etc., qui a été malmené. Donc il y a en plus, au sein finalement des secteurs de la côte, ouais, des véritables disparités qu'il va falloir observer.
On peut d'ailleurs en parler maintenant. Léa Dunant-Châtelet, vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Hier, on a vu que Rheinmetall entrait dans l'Eurostock 50, ce qui chassait en plus Kering, mm-hmm, pas n'importe qui quand, oui, même, c'est une grande valeur du luxe, le luxe qui a été un moteur de croissance et de performance du CAC 40 pendant très longtemps. Qu'est-ce que ça nous indique sur de potentiels drivers de performance sur le reste de l'année, et comment est-ce qu'on, oui, regarde ça quand on fait de l'investissement responsable, Léa?
Oui, et bien alors, deux choses, effectivement, la première c'est que comment on le regarde et comment on l'interprète, je crois que ça explique très simplement quels sont les catalystes des 18 prochains mois, on va dire. C'est le financement, effectivement, d'un secteur qui est la défense aujourd'hui. C'est les plans de relance en Allemagne, dont effectivement une partie aussi pour la défense en Allemagne. Donc, quelque part, c'est pas une surprise de voir apparaître ce titre qui a effectivement déjà explosé en termes de performance, et c'est pas le seul, qui rentre dans la cotation effectivement de l'Eurostoxx. Et à l'inverse, c'est là où l'image est intéressante, le luxe ressort. Le luxe, un peu comme la santé, c'est les secteurs qui ont fait les beaux jours des indices européens pendant une dizaine d'années. Ça s'est arrêté il y a 2 ans, maintenant, ouais, 3 pour la santé. Et on a l'impression qu'on est en train de rentrer presque dans de la deep value. Il y a plusieurs choses. Alors, la santé est en train de devenir de la value, mais complètement value. C'est assez... Et ne joue plus son rôle défensif en plus dans les périodes de stress de marché. Le secteur, pour moi, du luxe, c'est un peu différent. C'est un secteur dans lequel le pricing power, vous parliez tout à l'heure qu'en fait, finalement, les croissances des bénéfices, et notamment, si on prend la partie chiffre d'affaires pour commencer, avant de parler des résultats, se font à travers des passages de prix. C'est ce que le luxe a fait pendant des années, notamment sûr, post-Covid. Ouais. Et là, ils en payent un peu le prix. Ouais. Ils en payent un peu le prix avec des changements de mentalité. Et là, on vient au sujet ESG, qui sont pas négligeables. Hein. On voit comment le luxe est malmené, notamment en Asie, qui était quand même son premier... je dirais, sa zone géographique de croissance forte, parce que à la fois les pratiques, mais également finalement le branding n'est plus aussi présent. Vous parliez de Rémy Cointreau, Pernod Ricard,
ouais,
c'est un peu la même chose. Donc oui, là il y a un renversement, un bouleversement qui s'opère et qui va à mon avis être durable. Quant à l'ESG, eh bien, je crois que on en a déjà beaucoup parlé. Moi, ma position là-dessus, c'est celle de l'investisseur. Je pense que c'est des sujets idéologiques. C'est pas un sujet d'ESG. Les entreprises de la défense ont des approches en matière de durabilité qui sont excellentes. Je pense à des entreprises comme Thales, par exemple, en France, qui sont parmi les pionniers et qui ont vraiment une approche sur l'éthique dans leur secteur et sur la mise en œuvre des enjeux, y compris décarbonation et autres, hein, qui sont très très bons. Après, vous avez des clients qui en veulent, d'autres qui n'en veulent pas. C'est totalement indépendant de l'ISR. Enfin.
Plus idéologique qu'ISR, si je comprends.
Oui, oui.
Bon, Benoît Vesco, je réagis sur ce que nous disait Léa Dunant-Châtelet sur la santé qui est value. Si on parle un petit peu, si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, hier sur ce même plateau, il y avait un des intervenants qui disait la value aujourd'hui, elle est sur les marchés européens et plus spécifiquement sur les small and mid. C'est là où il faut aller chercher de la performance. Il faut regarder encore les marchés européens aujourd'hui si on veut de la performance et profiter de ce moment-là.
Alors, en tout cas, quand on regarde l'Europe, là encore, en distinguant bien ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe, l'avantage de l'Europe, comparativement, est qu'il a deux moteurs, tels que je les vois, assez clairement identifiés. Le moteur de court terme, qui est le soutien de la Banque Centrale Européenne. C'est clair, on est dans une politique de taux bas, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis.
Oui, puisque demain, à la réunion de la BCE, personne ne semble contredire l'avis du marché qui est de dire qu'on aura une baisse de 25 points de base.
Il n'y a pas de sujet, hein, et donc ça va continuer, ça va être à un moment donné. Mais on a bien ce moteur à court terme, et puis on a ce moteur moyen terme, hein, Léa l'a évoqué, de cette politique de l'investissement mise en place par l'Allemagne et puis en partie par l'Europe, qui va se mettre en place donc et qui sera un moteur très vertueux. Et là-dessus, je dirais que le cas d'investissement de l'Europe, il est assez clair. Et il a le mérite d'être potentiellement assez diversifié. Et c'est pas uniquement la défense, c'est beaucoup plus large. Ça va être la technologie, ça va être l'efficacité énergétique. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui vont se déverser. Et là, on retrouve beaucoup de types de valeurs et de différentes tailles. Donc c'est plutôt assez vertueux pour l'Europe. Après, il ne faut pas quand même occulter que le marché américain reste le marché leader, le marché directeur, et qu'il va falloir quand même passer par une phase de réponse à un certain nombre de questions aux États-Unis sur la politique du gouvernement. Qu'est-ce que va mener le gouvernement Trump comme décision? Qu'est-ce qu'il va mettre en place comme décision? Quels sont les impacts sur l'économie réelle et la microéconomie, la réalité des entreprises? Et ça va être quand même un sujet qu'il faut... Enfin, c'est un doute qu'il faut qu'on lève, et on le voit bien dans le comportement des marchés. Ce doute-là, il n'est pas encore levé.
Donc ça veut dire quoi? Qu'on va suivre les prochaines publications de résultats des entreprises? Qu'on va faire plus de stock picking aux États-Unis? Qu'on parle de prudence aujourd'hui sur les marchés américains ou pas? Parce que quand on voit la performance des marchés au global, finalement c'est plutôt bon à l'heure actuelle.
Tout à fait. On a plutôt une vision positive pour la fin de l'année sur les marchés actions US-Europe, hein, parce que on n'est pas en récession. On a pu le craindre à un moment donné. Hein. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas en récession.
On a quand même un recul du PIB, alors léger, hein, de 0,3 points, de 0,3% au premier trimestre.
On est en plus faible croissance. Mais l'avantage aussi aux États-Unis, c'est que c'est probablement la fin de l'hyper-concentration des indices, où vous aviez quelques valeurs qui faisaient toute la performance, ce qui n'était pas sain. Et pour prendre l'exemple tout à l'heure d'Alexandre, hein, on suivait le marché US parce qu'il fallait le suivre et qu'il était extrêmement performant, mais on savait tous qu'il était beaucoup trop concentré. Donc on revient sur une concentration de portefeuille, effectivement de stock picking, beaucoup plus saine, où on peut faire notre travail et qui va éviter probablement, qui sera plutôt un gage d'éviter des grands drames sur telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur, qui peuvent arriver sur des décisions qu'on ne maîtrise pas totalement pour le moment.
Alexandre Baradez, est-ce que c'est la fin des... Alors, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais beaucoup aiment la gestion passive, les ETF, MSCI World ou autres. On avait cette idée que quand les marchés montaient, bah, effectivement, il suffisait de suivre le marché et puis tout allait bien. Est-ce que là, on rentre dans une phase plus incertaine et donc avec... on a vu par exemple les résultats de Nvidia il y a quelques jours. Bon, c'est encore mieux qu'attendu. Ça réagit évidemment, mais on a l'impression que c'est plus la seule information que les investisseurs ont envie de regarder, quoi.
Oui, alors ça, c'est la partie ETF. Je pense pas que les investisseurs, en tout cas les nouveaux entrants depuis le post-Covid, à savoir beaucoup de particuliers, qu'ils changent de philosophie d'investissement, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience plus profonde, plus structurelle sur les questions de retraite par capitalisation, les questions de dette en France aussi. Je pense qu'il y a des questions sur la viabilité du niveau des retraites. Donc il me semble qu'il y a une prise de conscience profonde des investisseurs retail, notamment en France, et qui va continuer à tirer la thématique investissement. Ça, je j'ai pas trop de crainte par rapport à ça. Après, c'est vrai que l'approche en termes d'analyse pour les indices, effectivement, c'est on a par exemple Apple aujourd'hui. C'est à une époque tout montait en même temps, les 7 magnifiques ou les 5 ou 6 avant Nvidia, c'était très très corrélé, c'est les mêmes types de mouvements qu'on avait.
Oui, c'était le secteur de la tech, c'était les très gros de la tech.
Exactement.
Oui.
Là, vous avez Microsoft après une baisse qui en 2 mois est revenu sur ses niveaux records. Vous avez Apple qui est toujours sur les plus bas de plusieurs mois. Nvidia qui est plutôt enfin dans une zone consolidante, qui fait un peu bien aussi parce que voilà, on corrige un peu les excès. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a moins de sensibilité à cette très très grosse valeur de la part des indices, mais pour autant, cette dernière semaine, ça a quand même pas mal joué. Microsoft qui est reparti en pleine bille vers le nord, ça a quand même lifté le S&P, le Nasdaq sur des niveaux qui sont où les valorisations m'interpellent vraiment parce que effectivement, on a l'impression que pour le PIB, si on regarde les éléments de PIB, premier trimestre, bon, des éléments surtout liés à la balance commerciale avec cette déformation liée à des importations massives. Donc le revers, mais le bon revers de la médaille, le T2, c'est qu'effectivement, ça va se normaliser, l'élastique, on va l'étendre de l'autre côté. Mais il me semble, et c'est ça que la Fed essaie de voir d'ailleurs, c'est de lire à travers ce bruit finalement court terme. Ouais. Ce qui va compter ensuite, le OS2, ce que disait Léa, ça va être plutôt la partie consommateurs et investissements des entreprises. C'est les grosses composantes du PIB également. Ouais. Une fois qu'on aura réglé ces effets de balance commerciale, quelle sera la petite consommation pour les Américains, alors que les taux, et on le voit sur le dynamique, ça, on n'en parle pas trop de ça, mais le marché immobilier américain, il faut regarder les dynamiques de l'indice de refinancement hypothécaire ou autre, mais on est sur des niveaux qui sont en dessous des niveaux qu'on a connus pendant les subprimes. C'est-à-dire à quel point, je ne dis pas que le nombre de transactions ou autre est similaire, mais la dynamique du refinancement ou autre, elle est à l'arrêt sur les projets immobiliers aux États-Unis. Parce que les taux sont élevés et des taux longs qui restent élevés, nous on voit ça sous le prisme attention à l'effet des taux par rapport aux actions, mais c'est avant tout attention à l'effet des taux sur l'économie réelle américaine, sur les coûts de crédit consommation, coûts de crédit immobilier, et les Américains n'ont plus ce matelas qu'ils avaient post-Covid et par l'excédentaire. Et c'est là que moi je trouve que le buy the dip est un peu dangereux cette fois-ci, parce que autant le buy the dip Covid, vous avez des taux réels négatifs, vous aviez une liquidité ultra abondante des banques centrales et des taux zéro. Là, le dip s'est fait, mais sans aucun soutien des banques centrales. Mmh. À part oui, la BCE qui baisse, mais il n'y a pas d'injection massive de quantitative easing ou autre, et la Fed est toujours en train d'ajuster son bilan et ne baisse pas les taux. Donc c'est ça la différence pour moi, c'est que le moteur qu'on avait sur les dips précédents, même le dip 2018-2019, c'était fait parce que la Fed avait commencé à pivoter un petit peu et remis la liquidité. Ouais, à un moment donné. Là, c'est pas le cas.
Donc d'où vient la liquidité, quoi.
Donc il y a des convictions, mais qui sont motivées par des éléments qui me sont un peu étrangers. Ouais.
Vous allez compléter sur une chose, parce que c'est peut-être là où on arrive enfin dans un marché qui est sain, parce que le marché ne réagit pas sur des politiques monétaires et effectivement du quantitative easing, mais réagit sur des politiques budgétaires. C'est une super bonne nouvelle. Ça fait combien de temps qu'on attend des politiques budgétaires, des vraies politiques budgétaires? Moi, je trouve ça super, et en particulier en Europe. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, soit avec... on n'a même pas parlé de l'IRA, mais l'IRA a été revotée. Finalement, on le savait que ça serait revoté. Il y a eu énormément de bruit. Et donc là, c'était des dépenses assez importantes qui avaient déjà été amorcées par beaucoup d'industries aux États-Unis. Effectivement, la partie fiscale, l'Allemagne en a parlé aussi, la partie fiscale. Donc, c'est beaucoup plus sain qu'avant, quelque part. Si c'est ça le rebond que les marchés jouent, je le trouve en tout cas beaucoup plus cohérent par rapport aux fondamentaux.
Donc, avec quand même une inquiétude aux États-Unis sur la partie fiscale qui reste concrète là depuis quand même plusieurs jours et on va quand même normalement, on a quand même l'impression qu'on va vers plus de dépenses de l'État américain, donc plus d'endettement de l'État américain. Oui. Ça doit quand même nous inquiéter un petit peu.
Ça c'est sûr, mais c'est tout le problème là de la mandature de Trump et qui va durer, hein, évidemment. C'est des effets d'annonce dans tous les sens, dont on va avoir toujours du mal à savoir s'il y aura une concrétisation ou pas à la fin. Force est de constater depuis les 6 mois de son élection, on va dire pour résumer, que la plupart de ce qu'il a annoncé n'a pas fonctionné. Ouais. Et a fait beaucoup, beaucoup de bruit en termes de volatilité sur les marchés, mais aussi sur des secteurs, puisqu'il tape régulièrement sur différents thèmes, et le thème est embarqué. Peut-être qu'on peut aussi imaginer qu'à un moment, le marché va arrêter d'anticiper, parce que on réalise tout simplement que finalement, ces effets d'annonce ne sont que des effets d'annonce.
Mais d'ailleurs, il arrête plus ou moins déjà de réagir. Ben oui.
Mais c'est exactement ça. Ça
50% fait sur l'acier et l'aluminium, ça réagit moins qu'avant.
Voilà, ouais. Absolument. Alors qu'on regarde ce que ça a fait sur la santé ou sur l'éducation il y a 2 mois, c'était totalement différent. Et je pense qu'on arrive dans cette phase-là où, en plus, si on regarde les évolutions en intraday, hein, comme on dit nous dans le métier, c'est-à-dire comment les cours de bourse évoluent dans une même journée, on n'a plus du tout ces mouvements erratiques. Malgré les chiffres macroéconomiques, malgré les annonces via X ou Twitter. Et donc, ça veut dire que le marché est en train de reprendre un peu de recul et de se dire, bon, allez, on va laisser ça passer. Mais quand ça sera concret, on mettra un prix en face.
Benoît Vesco, on va continuer avec vous. Moi, j'avais une question sur la Chine quand même. On est dans une guerre commerciale entre effectivement les États-Unis et la Chine. Et on a d'un côté des interdictions de vente de puces à la Chine et de l'autre la Chine qui se rappelle au bon souvenir des États-Unis et d'autres en disant n'oubliez pas que les terres rares quand même, c'est chez moi. Donc, faudrait pas jouer trop fort. Est-ce qu'il y a une position d'arbitre de la Chine sur les drivers de la tech sur les prochaines années, sur les performances de la tech? On se souvient aussi que les États-Unis ou même l'Union européenne annoncent des plans massifs dans l'intelligence artificielle, puis la Chine rappelle que avec beaucoup moins on peut aussi faire aussi bien. Quelle position de la Chine sur ces sujets tech, Benoît Vesco?
Oui, elle a clairement des cartes à jouer, et d'où cette position au plus fort de la négociation commerciale un peu jusqu'au boutiste de la Chine. Quelque part, bon, là c'est un peu ses difficultés à elle, elle n'avait rien à perdre, hein, parce qu'elle est quand même un peu déçue de sa consommation intérieure, et qu'il faut quand même elle a quand même besoin de ce moteur externe, et donc elle n'avait un peu rien à perdre, et elle était prête à jouer le tout pour le tout, d'autant plus qu'elle avait cette capacité de nuisance et de blocage clairement établie. D'où on en revient à un moment donné, après une phase un peu extrême, à une discussion.
Une capacité de nuisance, si on parle des terres rares, qu'elle n'utilise pas tant que ça au final.
Qu'elle a déjà utilisé.
Qu'elle brandit, mais. Est quand même contente de vendre à la fin.
Oui, bien sûr, mais c'est toujours un double jeu, mais qu'elle a déjà utilisé, sur lequel elle a un peu traîné pour les livraisons, ça suffit. Et effectivement, dans une guerre commerciale, c'est toujours un jeu perdant-perdant. Personne n'a intérêt à aller jusqu'au bout. Il faut, à un moment donné, trouver un accord des deux côtés. Donc, c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Donc, là-dessus, oui, ça revient à la raison et c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas occulter que la Chine a des problèmes internes, a des difficultés structurelles qui, malheureusement, ce moteur dont on a énormément apprécié sur les marchés la vigueur pendant quelques décennies, il n'est plus là. Il faut c'est ça, clairement, les marchés.
Ça, il faut l'accepter.
Il n'est plus là. Et il faut trouver d'autres relais. Ils existent dans le monde, mais il faut trouver d'autres relais.
Où ça, du coup? Oui, Léa Dunant-Châtelet.
Oui, je pense à la problématique des terres rares, qui est hyper intéressante, juste pour compléter sur ce sujet. En fait, on a l'impression que la Chine, effectivement, a la totalité de la main mise sur les terres rares. Les terres rares ne sont pas rares, contrairement à leur nom. C'est
important. On en trouve aussi
en Malaisie. On en trouve partout. Oui. On commence à explorer des pistes en France. Enfin, on en trouve partout. La seule chose, c'est que c'est eux qui les exploitent aujourd'hui. Et pour rappel, donc je pense que c'est là où le bras de fer, il n'est pas si dur que ça, parce que tout le monde sait qu'à un moment, on va s'y mettre pour une raison très simple, c'est que, étant donné les perspectives de croissance sur des tas de domaines comme la mobilité, l'électrification, etc. De toute façon, les besoins sont énormes. Même, d'ailleurs, l'intelligence artificielle, les besoins sont énormes. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui en termes de production ne suffira pas.
C'est pas parce que le gros de l'offre est aujourd'hui en Chine qu'il faut s'inquiéter.
C'est là où j'en viens. Et je pense qu'ils en ont complètement conscience. C'est-à-dire que c'est un bras de fer qui ne va pas durer très longtemps. Et les États-Unis, d'ailleurs, si on regarde le mapping des métaux, aujourd'hui, sur la partie métaux dans le secteur de la défense, ils détiennent la quasi-totalité de leur production interne. Donc, il suffit juste que les pays s'organisent, ces métaux-là ne sont pas rares, donc ça devient de moins en moins une discussion. En revanche, en termes de capacité à l'échelle mondiale, étant donné les ambitions de tous sur tout un tas de sujets, notamment celui du développement durable, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça, c'est un autre sujet.
Alexandre Bardet, c'est
quoi ? Aujourd'hui, il y a quand même une déclaration du commissaire européen au commerce qui a dit qu'il n'allait pas lancer d'homologue chinois parce qu'on a eu l'avertissement, la déclaration de BMW aujourd'hui, qui disait que dans sa chaîne d'approvisionnement, certains de ses fournisseurs étaient impactés et avaient même dû cesser certaines activités liées à la restriction décidée donc au début de la guerre commerciale lancée par Trump, par la Chine, de restreindre ses exportations de terres rares. Et là, c'est BMW qui le dit, mais c'est repris en cœur par l'association des constructeurs auto européens cette fois-ci, où effectivement, ils tirent la note d'alarme. Ils disent qu'il y a non pas les constructeurs directement chez eux, mais dans la chaîne d'approvisionnement, notamment présente en Chine, certains qui n'ont pas reçu ou qu'un quart de ce qui était prévu en termes de livraison, que du coup, ça commence à tirer un peu sur les stocks. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Léa. Quand je parle de marchés qui sont chers, je ne crois pas du tout qu'il faille se dire on doit rebaisser de 20-30%, comme la stupeur qu'on avait en avril. C'est pas ça. C'est à quelle vitesse les marchés se repositionnent par rapport à la chronologie des événements. Par exemple, pour l'Allemagne, c'est vrai qu'est-ce qu'on n'a pas encore pricé Le boost budgétaire, bon, on en parle maintenant depuis déjà un bon gros trimestre.
Ouais.
Le plan fiscal, alors ça c'est plus récent, les 40 milliards et quelques, ça c'est ce matin. Ça n'a pas d'ailleurs trop réagi, mais parce qu'on sait que dans ce boost budgétaire, les Allemands enfin ont changé de dogme et de structure de raisonnement. Donc c'est ça qui a aussi fait que le DAX est allé aussi haut, aussi rapidement. Ensuite, le deuxième thème, c'est le côté un peu valeur refuge, ou pas valeur refuge, plutôt la rotation qu'on observait, la désensibilisation un petit peu à l'aspect US à 100%. On est venu plus sur l'Europe, donc probablement qu'un investisseur étranger qui ne connaît pas forcément très bien l'Europe va dire, bon, là-dedans, c'est qui le plus gros, c'est l'Allemagne, c'est quoi son
investissement? Je vais en Allemagne.
Et je vais sur le DAX. Donc il y a peut-être un côté valeur, je dis refuge, comme le Bund peut être en temps de stress, et là, finalement, on est tous allés sur le DAX, parce que c'est l'indice où on sait qu'en plus le pays derrière a les capacités de réagir. Donc ça, c'est, il me semble que c'est déjà pas mal pricé aussi, les questions du boost budgétaire, et finalement, on a peut-être oublié que l'Allemagne, et c'est ce que nous rappellent les instituts économiques allemands tous depuis un mois maintenant, ils révisent tous à nouveau leurs prévisions pour cette année. Dans le meilleur des cas, c'est croissance nulle. Dans le pire des cas, c'est -0,2, -0,3, ce qui signerait la troisième année de contraction de l'économie allemande. C'est du jamais vu depuis l'après-guerre. Et c'est, moi, je suis pas inquiet. Celui qui se dit aujourd'hui, est-ce que je dois prendre un ETF sur le DAX horizon 5 ans, allez-y sans aucun problème. Idem pour le DAX, pour le MIB, pour le CAC, pardon. C'est la question des 3 à 6 mois qui viennent.
Voilà. Ouais, qu'est-ce
qu'on a déjà, on a déjà tiré beaucoup de bonnes choses, mais cet aspect des terres rares, ce constructeur auto, ça crée un peu de tension.
Oui, parce qu'on a parlé des résultats d'entreprises aux États-Unis, mais il va falloir les regarder en France aussi, l'impact de la guerre commerciale. Enfin, en France ou en Europe, il va être aussi sur les entreprises européennes.
Oui, et puis c'est vrai qu'on dit souvent, bah, Louis, l'indice national aujourd'hui, ne représente plus les économies domestiques. Le CAC nous a montré qu'après la dissolution, ça va être le CAC, la dissolution française est un vrai problème parce que des changements de fiscalité qui pourraient intervenir.
Ouais.
Donc, il y a eu une sous-performance du CAC pendant pas mal de mois. Là, le DAX, on dit, oui, le DAX, c'est pas l'Allemagne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le DAX, c'est encore 20 à 25% du chiffre d'affaires des boîtes qui sont faites sur le sol allemand. Le reste, c'est en Europe aussi, beaucoup aux États-Unis et en Chine. Mais du coup, on arrive au même thème. Est-ce que la visibilité américaine est bonne où on se dit, bon, ben, le DAX, il monte parce qu'on a une bonne vue sur l'économie américaine. On se pose ce soir les questions du hard à réseau actuellement. Donc, et la Chine, c'est un peu mou. Donc, selon moi, on arrive à des niveaux à court terme de valorisation qui justifieraient d'être un peu relâchés. Je plaiderais pour des 5 à 10% voilà, de drawdown. Ça suffit. Mais pas en quelques mois, par contre.
D'accord.
Si c'est corrigé, ouais, si stress et tout reprendre en deux mois, ça n'apaise pas les valorisations. C'est juste des trous d'air qui se retendent derrière. Il faut qu'on arrive à se poser pendant deux bons trimestres au moins dans des ranges, des zones où finalement on ne voit pas de record tous les jours, on ne se crache pas non plus. Et ça, ça détend les multiples avec la longueur de temps qui vient.
Benoît Vesco, on parlait de la Chine tout à l'heure et je vous disais, mais alors où est la performance? Où est-ce qu'on va la chercher aujourd'hui? On peut commencer à se poser la question de manière un peu plus globale. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés? Alors, on a beaucoup parlé de l'Europe, on a parlé des small et mid. C'est vrai qu'on aime bien regarder effectivement du côté européen. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés aujourd'hui et où est-ce qu'on va chercher de la performance?
Oui, alors on l'a dit, hein, Alexandre l'a rappelé, le scénario sur les marchés actions, il est plus clair sur l'Europe. Une fois n'est pas coutume, ne boudons pas notre plaisir. Donc, sur l'Europe, je pense que les marchés actions, il n'y a pas de sujet, on peut être investi. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure, là encore, sur les marchés US actions, même si on peut avoir encore des épisodes de volatilité. Les choses, d'une manière ou d'une autre, s'assainiront. On espère que s'assainiront dans le calme. C'est ça qu'il faut surveiller. Et après, il réside de la valeur importante sur les marchés obligataires. Maintenant, on revient depuis 2022 sur des marchés obligataires normalisés. On a du rendement, que ce soit sur les marchés US de bonne qualité, mais aussi sur les marchés européens. On retrouve du rendement sans risque avec une bonne visibilité. Donc là aussi, on peut, de la même manière qu'on peut créer des portefeuilles diversifiés sur les marchés actions et qu'il faut le faire maintenant, on va pouvoir créer des portefeuilles diversifiés actions et obligations qui rapportent et qui jouent leur rôle avec la poche action qui stabilise, la poche obligataire qui stabilise le portefeuille. Donc ça a beaucoup.
Là, on parle de crédit pour le coup.
Crédit. Alors plutôt crédit, parce qu'on va avoir ce petit supplément de rendement avec une bonne visibilité sur l'investment grade par exemple, ou une dose de high yield peut être possible si on peut se permettre. Et puis, on a toujours, si on veut être un peu plus actif, cette poche de monétaire qu'on peut activer quand on le veut. Elle rapporte moins, mais elle rapporte. Et donc là, on a ce travail de gérant actif sur toutes les classes d'actifs qui peut jouer son rôle et qui va avoir beaucoup de valeur dans les phases à venir.
Alexandre Baradez, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché à l'heure actuelle? Où est-ce qu'on peut chercher de la performance? Est-ce que du coup, bah, on reste en Europe, on ne boude pas notre plaisir, on est plutôt heureux de profiter
La Chine, il y a quelques temps, avant déjà que le monde se lance, on pensait que la Chine pouvait être à un moment donné avec des valeurs de la tech chinoise, avant même qu'il y ait des questions commerciales qui entrent en jeu, qui ont été plutôt. Mais quand il y a pas mal de mesures de soutien comme ça l'année dernière, qui sont accumulées tout le long de l'année, puis à un moment donné, ça a commencé à faire un petit effet up comme ça, assez rapide, 20-30% sur les gros indices chinois. Je trouve que le risque que l'économie chinoise souffre complètement de... On a l'impression qu'ils ont quand même même si c'est quelque chose qui mettra du temps à se faire, mais ils ont quand même compris qu'ils avaient besoin de renforcer un peu leur demande intérieure, ouais. Parce qu'effectivement, les tensions avec les États-Unis, ça va être quelque chose de structurel, ça, il y aura des phases détente et de tensions, mais que ça allait rester. Donc, je trouve qu'il y a toujours des valorisations attractives sur la partie chinoise.
D'accord.
Effectivement, les derniers PMI...
Ça sera plus le moteur de performance oui. De la croissance mondiale, mais il y a des, voilà, il y a des opportunités.
Sur les marchés boursiers, oui, sur la tech chinoise, sur des indices plus larges, type Hang Seng Index, par exemple, la valeur chinoise côté Hong Kong. Je pense qu'un retour sur les niveaux de 2021, c'est quelque chose de 3 ans d'horizon probablement, mais ça, c'est du potentiel encore au moins 30 à 40% de hausse.
Et le risque politique en Chine, il faut quand même le garder en tête. Alors c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas rappelé à nous, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête si on regarde les marchés chinois.
Est-ce qu'ils n'ont pas appris les erreurs qui ont été faites? Alors, quand il y a eu avant même le stress du marché immobilier, il y a eu un coup de tour de vis réglementaire qui était extrêmement fort dans plein de domaines, des PDG qui avaient disparu pendant quelques temps, etc.
Oui, donc, bien sûr.
Ça, c'était l'effroi pour l'investisseur occidental. Pourquoi laisser nos fonds seulement sur un pays autocratique comme ça? Et les autorités ont montré qu'elles ont fait attention à ça. Elles ont amené quand même les flux d'investissement étrangers passés dans le rouge en hier tout hier. Ben, on a vu des réunions se faire, on a rappelé des PDG américains venir en Chine. Donc ils ont quand même senti que le nerf de la guerre, c'est toujours pareil, c'est l'investissement en capital ou sur les marchés ou autres. Et donc voilà, je pense que ça servait un peu de. Ils ont fait quelque chose, ils ont vu que les effets n'étaient pas terribles. Je ne les vois pas redessiner ça à court terme.
Donc la Chine, pas l'Inde juste à côté dont on a beaucoup parlé,
c'est
pas le Japon, plus la Chine.
Que la Chine a sous-performé pendant des mois, que voilà, si les accords se sont trouvés, le yuan est quand même plutôt resté stable ces derniers temps, il y a un peu de gros mouvements, donc je trouve que les conditions ne sont pas mauvaises pour y aller.
Léa Dunant-Châtelet, même question. Qu'est-ce qu'on regarde sur les marchés actions? L'ISR, d'ailleurs, se porte plutôt bien depuis le début de l'année.
Plusieurs choses, effectivement. Comme je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je vais aller sur d'autres thématiques. Effectivement, Action Europe, déjà, sur la partie actions. Action Europe, il y a quand même deux choses qui ne sont peut-être pas suffisamment pricées aujourd'hui, qui peuvent encore offrir des opportunités. La fin du conflit russo-ukrainien, parce que celui-là aussi, c'est pareil, il dure, c'est une négociation dure, et ça va finir par aboutir. Et il y a énormément d'idées d'investissement pour jouer, justement, la sortie de ce conflit, reconstruction du pays, infrastructure, etc., qui ont très, très bien marché en fin d'année dernière et tout début d'année, et puis qui se sont essoufflés. Parce
D'accord.
que, justement, on a vu un petit peu la thématique disparaître. Donc, c'est probablement l'occasion d'y revenir. Et en plus, quelque part, c'est les deux faces d'une même pièce. Pour la plupart, c'est des sociétés dites à longue duration. Et je pense que le deuxième thème qu'on joue pas trop non plus pour l'instant en Europe, c'est cette fameuse baisse des taux qui va devenir vraiment réelle et qui va redonner des couleurs à tous ces secteurs dits à longue duration. Donc, pour deux raisons. Soit parce que, dans leurs activités, ils ont de la dette. Je pense notamment aux utilities, donc les entreprises qui produisent de l'énergie, qui ont
bien
très
sûr.
Bien fonctionné depuis le début de l'année, mais ça peut continuer avec
D'accord.
cet effet-là.
Grâce à l'effet taux.
Exactement. Et puis pour la plupart, elles sont très européennes, centriques européennes. Donc finalement, vous êtes un petit peu tranquille en termes d'exposition vis-à-vis des annonces outre-Atlantique. Il y a également l'immobilier, les foncières européennes. C'est un thème qui a été très, très délaissé pendant un moment, qui en termes de valorisation est attractif et qui va bénéficier de cette baisse des taux. Voilà, nous, c'est ça qu'on regarde en ce moment. Et ça coche à la fois la case de potentiellement des entreprises qui vont être impliquées dans la reconstruction de l'Europe de l'Est, des entreprises qui sont effectivement plutôt des modèles endettés et qui, du coup, vont bénéficier de la baisse des taux, et en plus des entreprises qui sont plutôt européennes dans leurs activités, assez immunes, finalement, de tout ce bruit outre-Atlantique. Donc ça nous plaît bien. Pour ce qui est de l'ISR, vous avez raison, mais l'ISR est tellement protéiforme qu'il n'y a pas tout dedans. La thématique qui revient très fort depuis le début de l'année, pour l'instant c'est la seule d'ailleurs, c'est celle du climat.
Ouais.
Et ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il faut voir l'écartement qu'on a vécu fin 2024 au moment de l'élection de Donald Trump, qui a été violent. Moi j'ai jamais vu dans ma carrière un tel écart. En revanche, c'était le moment d'y aller, parce qu'effectivement, les valeurs dans ces thématiques-là se sont très bien reprises, à part un secteur et sur lequel il faudra toujours être vigilant, je pense, les énergies renouvelables. Les énergies
D'accord,
renouvelables
ouais.
sont structurellement moins rentables, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler maintenant, et qui font que le thème du climat, c'est super diversifié. Et je voulais reprendre ce que vous aviez dit tout à l'heure, avec lequel je suis assez d'accord. On pense défense en ce moment. Attention, il y a beaucoup de choses qui ont été pricées. Il ne faut pas être monothématique, il ne faut pas être monosecteur dans ces allocations,
ouais,
surtout pas. Derrière défense, il y a souveraineté, en fait, dans les messages européens. Et du coup, là, c'est beaucoup plus large. Il y a plein de choses à faire.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Léa Dunant-Châtelet. Je rappelle que vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Merci Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management. Et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.